Chapitre 6. Béatrice et le baiser. Béatrice vivait seule. Elle avait environ 50 ans. Elle était proprette, assez jolie, mais particulièrement falote. Là où elle passait, elle ne laissait ni remous, ni souvenirs. Elle n'existait que pour sa voisine de palier, jeune personne vive et libre, et qui la saluait toujours avec effusion le matin. Son « Bonjour, comment allez-vous » était si chargé d'enthousiasme qu'il portait en lui l'essence de ce qui ne pouvait être que les prémices d'une excellente journée. La solitude de Béatrice en était éblouie. Elle pensait « Comment s'arrange cette petite Jacqueline pour être si heureuse ? Et comment, moi, ai-je le cœur si barbouillé d'ennui ?» « Il est vrai, ajoutait-elle, qu'elle danse et chante et prend des cours de comédie. C'est une jeune théâtreuse, en somme, et tous ces gens-là sont toujours contents. Ils s'accommodent de n'importe quoi et vivent comme l'oiseau sur la branche. » Elle regardait Jacqueline avec une certaine condescendance, mais pourtant son dynamisme l'intriguait. « Tout va bien pour vous ?» lui dit-elle un matin. « Non, répondit l'autre, mais je fais comme si. » Ce « je fais comme si » jeté en l'air avec insouciance fut à l'origine d'une jolie histoire. Béatrice se mit à réfléchir. S'il suffit de faire comme si, pour offrir cette image aux yeux du monde, peut-être serait-ce assez pour retourner le cours du morne destin où je m'enlise. Et comme elle n'était pas sotte, elle décida de faire comme si. Elle partit le lendemain s'acheter un chapeau de paille, une robe à fleurs, des souliers blancs et légers, s'achemina vêtue de la sorte vers Saint-Lazare, la gare la plus proche de chez elle, et décida de prendre le premier train en partance. Elle s'abandonnait au hasard. Le premier train allait au Havre. À cette époque, du Havre, on s'embarquait pour l'Atlantique Nord. Béatrice n'avait pas d'ambition si vaste. Elle arrêta son projet à Rouen. « C'est parfait, pensa-t-elle. J'ai fait des folies avec mes achats. Le billet, lui aussi, ne sera pas cher. Rouen n'est pas loin de Paris. De plus, Rouen est une jolie ville. » Rouen était accessible. Rouen n'effarouchait pas sa timidité. Dans un des coins du wagon où elle entra, un monsieur dormait. « C'est bien, il n'est pas dans le sens de la marche. Je m'installe face à lui, près de la fenêtre. Ainsi, le paysage viendra à ma rencontre. » Elle avait horreur de faire à reculons un trajet, ayant derrière elle ce qu'elle avait à découvrir, le perdant irrémédiablement dès qu'il lui était proposé. Une agitation très déprimante l'envahissait alors, comme s'il se fût agi du ratage même de sa vie. Le monsieur ne présentait aucune particularité éclatante. C'était un monsieur un peu mûr, ni jeune, ni vieux, ni beau, ni laid. Il était vêtu proprement, sans recherche. Quelqu'un, en somme, qu'il n'était pas inquiétant de côtoyer dans un wagon quand on voyageait seul. Elle savoura en s'asseyant l'idée saugrenue pour elle de partir sans raison et sans but, simplement pour « faire comme si ». Quelque chose au fond d'elle s'effrayait de cette hardiesse, mais en surface, l'impression était délicieuse. Elle caressait ses genoux fleuris par la robe, lorgnait les souliers à lanières qui libéraient ses doigts de pied et agitait ceux-ci en ajustant son chapeau. Autant de gestes incongrus et inhabituels. Elle était seule, mais sa solitude lui semblait réchauffée par la présence de cet inconnu absorbé dans le sommeil. Quand le train démarra, l'homme dessilla brusquement les yeux et fixa sur elle un regard particulièrement attentif. Il inclina la tête en manière de salut et, avec beaucoup de précision, sans hâte, fit du chapeau au soulier sa connaissance. Il s'arrêta avec intérêt sur la bouche. Elle esquissa un sourire. Puis sur les seins, elle n'osa plus bouger sur la banquette. Mais les yeux bleus inventoriaient maintenant la personne tout entière avec une parfaite correction. Il aurait fallu être vraiment mal intentionné pour trouver à redire. C'est du moins ce qu'elle pensa avec une totale candeur. Ce regard de l'étranger, la découvrant, lui donnait une réalité nouvelle. Il me voit avec des fleurs partout, plein la tête et le cœur, comme si mes idées étaient libres ainsi que mes orteils dans mes souliers découpés. Et je sais que l'ombre du chapeau me rajeunit le visage, je l'ai bien observé en l'essayant. Elle se mit sans y prendre garde dans la peau de ce personnage aussi inconnu d'elle que de lui. « Puis-je ouvrir la fenêtre ? » demanda-t-il, liant ainsi connaissance. « Certainement, monsieur. » L'air s'engouffra soudain, se jetant à l'attaque du couvre-chef qu'elle dut ajuster avec énergie. « Voulez-vous que nous échangions nos places ? » ?»« Non, je vais enlever mon chapeau. » Ses cheveux courts se mirent à voler comme des diables et c'était amusant pour elle, ce brassage du vent qui lui ôtait toute dignité. On se mit à parler. Où allait-elle ? Était-elle mariée ? Avait-elle des enfants ? Non, elle n'était pas mariée, ne l'avait jamais été. Elle n'avait pas d'enfants, et pour cause. Elle allait à Rouen. Elle ne savait pas bien pourquoi. Sans doute, elle s'ennuyait un peu. C'était surprenant, ces anodines confidences, mais agréable d'être interrogée. Que faisait-elle ? Oh, elle n'avait pas de métier à proprement parler, simplement un tout petit magasin où elle présentait des bijoux fantaisie. Elle avait une très jolie clientèle, un peu insuffisante, mais jolie. Elle voulait dire distinguée. Sa mère lui avait par ailleurs laissé quelques fortunes. Une confiance spontanée s'était emparée d'elle. Le train l'emportait, le vent tourbillonnait, ses cheveux dansaient, et, de sa tête à ses lèvres, les mots glissaient comme un miel tiède, emplissant l'univers du wagon, débordant sur le paysage comme une lente marée que rien n'arrêterait plus. Le voyage passa ainsi. Lui la regardait toujours avec une attention soutenue. Ses yeux ne disaient rien, ils étaient fixes, les parfaits témoins d'une expérience particulière, jamais imaginée, jamais tentée par elle. Ce n'était pas un miroir, ce regard. Si elle s'était vue, elle se serait tue immédiatement. Non, c'était un lac, une eau profonde, où tout s'engloutissait doucement et donnait en retour le sentiment d'une incompréhensible délivrance. Quand le train s'arrêta à la gare de Rouen, « Vous êtes arrivé, lui dit-il. Je suis heureux d'avoir fait votre connaissance. » Elle se leva tout étourdie, ivre de tintamarre, ivre de bavardage. Elle balbutia. « Vous allez plus loin ?» Sans savoir pourquoi, elle interrogeait. Et lui. « Oui, jusqu'au Havre, où j'embarque pour l'Amérique. » Et très gentiment, avec une infinie douceur, il prit le chapeau de paille posé sur la banquette, le lui mit dans les mains, saisit son visage et déposa en biais, au coin des lèvres, un baiser d'amour et de paix. Elle se retrouva sur le quai. Le train repartit dans un bruit terrible. De son retour chez elle, de la ville, de Rouen, elle ne devait garder aucun souvenir. L'été était beau. La voisine, toujours pleine de gaieté. Et les jours passaient, sans incident notable. Mais, sous la robe à fleurs et le chapeau de paille, que Béatrice ne quittait plus, vivait un souvenir qui était une richesse. Elle manipulait les bijoux fantaisie avec une délicatesse, une coquetterie, une sensualité qui troublait la jolie clientèle, la convainquait, l'affaire prospérait. « J'irai un jour au Havre, je m'embarquerai pour l'Amérique, avec une valise remplie d'objets précieux, et là-bas ?» Le silence se faisait en elle. Elle n'était pas en mesure de pousser plus loin l'imagination et la hardiesse. Elle fermait alors les yeux, posait l'index et majeur au coin de sa bouche, un peu en biais. C'était ainsi, pensait-elle, un baiser comme une petite croix. Cette idée de croix emplissait ses nuits. Elle recommença à fréquenter l'église. Elle était heureuse, comme elle ne se souvenait pas de l'avoir jamais été. Tout en elle était de soie et d'or, et elle se sentait douce et pleine d'amour. Sa voisine se mit à entretenir avec elle des relations qui dépassèrent le « bonjour, comment allez-vous » rituel et matinal. On prit l'habitude de sortir ensemble. On alla à la campagne, au cinéma, au restaurant. On papota. La confiance devint intimité. « Je vous trouvais un peu sinistre, Béatrice, avant de vous connaître, » lui dit un soir Jacqueline. « Vous êtes extrêmement timide, mais tout à fait charmante. Et puis, vous pourriez être ma mère. » Je vous aime bien. N'avez-vous pas d'amoureux ? J'ai rencontré un homme, répondit Béatrice. Il a posé sur mes lèvres un baiser comme une petite croix. Tout a changé pour moi depuis. Jacqueline garda un silence prudent. Elle déraisonne, pensa-t-elle. C'est la solitude. Il faudra que je la voie plus souvent. Ne trouvez-vous pas que j'engraisse ? Continua Béatrice. Je sens bouger en moi quelque chose d'inconnu. » Elle avait posé ses mains sur son ventre, que son amie trouva en effet quelque peu proéminent. « Vous êtes gonflé, tout simplement. C'est une histoire digestive. » « Non, non, je vous assure, je sens des poings qui cognent, des pieds qui s'agitent. Quand j'étais petite fille, un jour, j'ai dit à ma mère, « Maman, je voudrais être vierge. » Elle m'a demandé, « Pourquoi, ma chérie ?» Et j'ai répondu, « Pour avoir un petit enfant. » Jacqueline, voilà ce qui m'arrive aujourd'hui. Je crois toute la journée, toutes les heures, que je suis enceinte. Ses yeux étaient tout à fait égarés, et pourtant, une certitude calme émanait d'elle. « Enceinte ? De quoi ?» interrogea doucement Jacqueline. « D'un baiser ? D'une petite croix ?» Évidemment, il n'y avait rien à répondre. Alléguer l'immaculée conception était versée dans la folie. Béatrice savait qu'elle n'en était pas là. Elle sentit couler sur ses joues des larmes. L'eau descendait sur sa peau. C'était comme des ruisseaux. L'un naissait de l'esprit, l'autre du cœur. Deux ruisseaux convergeant vers les bassins collecteurs de ses yeux, largement ouverts, qui distribuaient cette incompréhensible douleur au grand jour de la terre. Jacqueline lui prit la main et la caressa en silence. Quand les larmes se furent arrêtées, « Va te reposer chez toi, lui dit-elle, la tutoyant pour la première fois sans y prendre garde, et reviens dîner avec moi. Moi aussi j'ai à te parler. » Jacqueline, ce soir-là, fit bien les choses. Elle avait dressé une table de fête. On dîna aux chandelles, et le repas fut arrosé au champagne. « Je ne vais pas fermer l'œil, » dit Béatrice. « Ça ne fait rien, moi non plus, mais ça vaut la peine. Ainsi, nous pourrons réfléchir. » On parla des pères et mères, chacune d'elles les ayant perdus. Il ne fut question de rien d'autre. Quand le repas fut terminé, « Je laisse brûler les bougies, Jacqueline, mais viens t'allonger avec moi. Prends-moi dans tes bras. Ce que j'ai à te dire est difficile. » Béatrice, au pied du lit, était aussi désemparée qu'elle l'avait été sur le quai de la gare de Rouen. Sa tête, brouillée par le champagne, semblait avoir quitté son corps qui se tenait immobile, comme paralysé. « Viens, dit l'autre, tu verras, ce sera gentil. »« Que peut-elle me vouloir ? » s'interrogeait Béatrice, complètement perdue. La pensée suspendue, au-dessus d'une vie qu'elle ne reconnaissait pas. Au théâtre, on a des mœurs bizarres. Béatrice savait depuis l'enfance, pour l'avoir entendu dire, qu'il fallait se méfier de ce monde-là. Elle sentit cruellement combien ses relations amicales avaient été imprudentes. Sans force, elle se laissa choir mollement au bout du divan. Jacqueline l'aida à accomplir la fin de son geste. Elle la tira vers elle, l'allongea, lui déverrouilla le bras, glissa sa tête au creux de son aisselle. Béatrice vit tourner le plafond. « Je ne me sens pas bien du tout, » pensa-t-elle. Qu'est-ce que cette situation inconvenante avait à faire avec elle? Comment pouvait-elle se relier à cet événement-là? Jacqueline, elle, se pelotonnait comme un petit chat. Elle sentait bon. Elle était chaude. Le silence était bouleversant. Il fut rompu par une voix hésitante. « C'est moi qui suis enceinte, » disait Jacqueline. « Et je n'ai personne à qui me confier, à part un médecin. » Le père du bébé est parti pour les États-Unis il y a 2 mois. Je suis allée le conduire au Havre. Béatrice eut une terrible douleur au cœur. En perdant tout à fait la tête, elle demanda « Comment est-il ? Jeune, beau, gentil, rassure-toi. Il poursuit ses études. Tout est pour le mieux de ce côté-là. Mais je n'ai pas voulu qu'il le sache. Quand il sera un peu installé là-bas, j'irai le rejoindre. Je le lui dirai. » Instinctivement, dans un geste qui lui était devenu familier, Béatrice fit de sa main libre, avec le majeur et l'index, la petite croix au coin des lèvres. « Seigneur, merci, » pensa-t-elle. « Si je n'avais pas été allongée, je serais tombée morte et je n'aurais pas connu la suite. » Elle se mit à trembler. « Tu ris ? » lui demanda Jacqueline. « Bien sûr, ce n'est pas une nouvelle triste, mais c'est difficile à vivre. J'ai besoin de toi. » Béatrice berça de son bras replié la jeune tête. « Tu ne seras pas seule, » murmura-t-elle. « Je serai là. » Elles se turent, et bientôt, au souffle régulier qu'elle perçut, Béatrice comprit qu'apaisée, sa compagne s'était endormie. Les bougies du dîner finissaient de se consumer, lançant des flammes pâles et projetant des ombres fantastiques au plafond. Béatrice se mit à rêver. C'était donc cela, ce voyage bizarre, cette vie transformée, cet homme qui partait pour les États-Unis, ce fantasme d'enfant engendré par la tendresse d'un baiser. C'était donc un signe, rien qu'un signe, mais qu'il fallait savoir interpréter. Jusqu'à aujourd'hui, tout me restait si incompréhensible que j'aurais pu penser que je basculais dans la folie. Les bougies s'étaient éteintes. Ne demeurait au plafond que l'ombre stable de la fenêtre frappée par le reflet des lumières de la ville. Une ombre en forme de croix. « Merci, Seigneur, » dit encore Béatrice. Elle sut qu'elle aurait maintenant deux enfants, Jacqueline et l'autre. Elle sut que sa propre vie était importante et qu'elle avait découvert la raison du prénom voué au bonheur que sa mère lui avait donné. Quand on soulève le voile sur une douleur secrète, beaucoup d'autres se précipitent, exigeant elles aussi de se montrer au jour. Je n'ai pas hésité, après Béatrice et le baiser, à donner son droit de vie à un passé lointain qui voulait réapparaître. Sylvette, dans le coup de foudre, trop fragile pour supporter ses émotions, a sombré dans l'évanouissement. Dans le père, Claire, spectatrice d'Antigone, va oser se regarder en face et, grâce au spectacle, commencer à entreprendre un début de restructuration de la personnalité. Merci mille fois au théâtre qui nous fait témoin de nous-mêmes et dénonce prudemment nos conflits sans intrusion indiscrète, seulement en nous racontant une histoire, comme le font les contes qu'on lit aux enfants. Il révèle ses messages au plus profond de nous, frappe le vaste pays qui s'étend derrière les apparences que nous offrons en société. Il nous fait réfléchir, en silence, ou éclater bruyamment de rire. Intelligent, universel, généreux, il est la chance d'une éventuelle délivrance. Je parle bien sûr du théâtre classique, tel que je l'ai aimé.